Bonsoir à chacun, bienvenue alors sur Biblos pour la seconde session. On a la joie d'accueillir ce soir Philippe Juston avec nous. Donc on va faire une courte présentation sur Philippe et il me corrigera si j'ai dit une bêtise. Donc Philippe et Maria Catherine, ils ont trois enfants pendant adultes et il exerce un ministère en région parisienne, à Aïcquevillé, dans une association humanitaire chrétienne qui s'appelle La Gerbe. Il a un ministère aussi de répondre à des questions qui lui sont posées. Donc, il va nous présenter ce soir qui est Dieu pour qu'on puisse avoir une approche pour mieux comprendre ou mieux se rappeler ou discerner qui il est pour nous. Je prie pour toi, Philippe. Notre Dieu, notre Père, on te remercie encore, tu vois, pour cette occasion que nous avons de pouvoir nous réunir devant toi, tu vois, pour se présenter, tu vois, pour découvrir qui tu es. Tu vois que tu es celui qui s'est révélé à Moïse, celui qui s'est révélé à tous tes enfants, tu vois, de l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, mais qui se révèle encore dans le Nouveau Testament à nous. Tu vois, tu nous as envoyé ton Fils et on te rend gloire parce que tu nous permets de pouvoir vivre ces moments parce que grâce à toi, tu as rétabli une relation par ton Fils. On te remercie pour tout. On te rend gloire encore pour ce que tu as accompli et on te remercie. Et on te remet encore Philippe, on te remet aussi la technique, on te demande d'accompagner chaque chose et de permettre que nous puissions nous laisser guider par toi. Amen.
Bonsoir à chacune, bonsoir à chacun. Chacun d'entre nous qui sommes enfants de Dieu, je crois que nous avons à cœur de le servir, mais nous avons aussi à cœur d'apprendre à mieux le connaître, et c'est l'objectif de cette soirée. Alors, un tel objectif pourrait paraître présomptueux ou voire même orgueilleux. Comment des êtres finis et marqués par le péché tels que nous sommes pourraient-ils prétendre connaître un Dieu si immensément grand et parfait? Alors il me semble que ce serait en effet faire preuve d'orgueil, de présomption, si nous pensions, à travers cette présentation, arriver à connaître pleinement Dieu ou voire même arriver à pleinement le comprendre. C'est donc avec humilité qu'il faut nous mettre à son écoute. Et de plus, j'aimerais relever qu'il ne faut pas oublier que cette connaissance de Dieu par sa parole, même si elle est première, même si elle est essentielle, ne doit pas remplacer ce que j'appellerais une connaissance expérimentale de Dieu dans notre vie. Et j'aime bien ce que peut dire Job à cet égard, hein. Mon oreille avait entendu parler de Dieu. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Voilà, il a vraiment vécu quelque chose avec Dieu. Alors pour nous, croyants, la croissance dans la connaissance de Dieu ne devrait pas être un simple objectif intellectuel, ce serait faire fausse route, mais cela devrait avoir pour but de nous conduire à des conséquences très pratiques dans notre vie. Et ce que je vous propose, c'est de garder cela à l'esprit tout au long de cette présentation ce soir. Donc, ce qui est prévu, c'est un petit mot d'introduction, puis de s'arrêter sur les caractères de Dieu. Ensuite, ce sera le moment de pause, et dans la deuxième partie, donc, d'aborder le Dieu trinitaire, les décrets et les œuvres de Dieu. Donc, le petit mot d'introduction, en fait, c'est celui que je viens de faire. Et lorsque maintenant nous voulons nous arrêter sur les caractères de Dieu, eh bien, on perçoit vite nos limites face à cela. L'ordre de présentation des caractères de Dieu que vous voyez devant votre écran ne correspond pas à un ordre, j'allais dire, qui serait classique en théologie. En effet, suivant les théologiens, les attributs divins sont regroupés de différentes façons. Certains vont regrouper, distinguer les attributs qu'on appelle communicables des attributs incommunicables. D'autres vont distinguer les attributs moraux des attributs non moraux, ou encore d'autres vont classer en attributs de temps, d'espace, de matière, de qualité. Tout cela ne doit pas nous surprendre, mais plutôt, me semble-t-il, nous faire toucher du doigt notre petitesse face à la grandeur de Dieu. L'existence d'un seul Dieu est clairement affirmée dans la Bible et on ne va pas s'arrêter sur tous les textes qui l'affirment, ce serait très fastidieux, j'en ai juste relevé quelques-uns. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu, s'exclame Dieu sous la plume du prophète Ésaïe. Au roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu, soit l'honneur et la gloire pour l'éternité, peut-on trouver dans la première lettre à Timothée, ou le Seigneur Jésus qui peut dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce que je voudrais juste relever, c'est que ce monothéisme biblique, il se distingue des monothéismes juifs et musulmans, puisque la Bible révèle un Dieu unique en trois personnes distinctes, mais nous y reviendrons plus tard, dans la deuxième partie. Un Dieu personnel, vivant, qui existe de façon indépendante. L'existence indépendante de Dieu. La Bible nous présente Dieu comme existant par lui-même, c'est-à-dire comme un Dieu dont l'existence ne dépend de rien d'autre que lui-même. On a ce texte dans le livre de l'Exode, Je suis celui qui est, c'est-à-dire Dieu est celui qui existe par lui-même, celui qui a la vie en lui-même, comme peut le dire le Seigneur Jésus dans l'Évangile de Jean. Et on ne doit dès lors pas être surpris, eh bien, que ce Dieu n'ait pas besoin d'être servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Alors, gardons-nous néanmoins d'en conclure que nous ne comptons pas pour Dieu, et nous en avons la preuve que nous comptons énormément pour lui, puisqu'il est venu vers nous en la personne de Jésus-Christ, pour que nous puissions être pardonnés et avoir la vie éternelle. Alors, sur le plan pratique, eh bien, cette existence indépendante de Dieu, elle me paraît très importante parce qu'elle signifie qu'il n'y a pas de pression extérieure qui peuvent, j'allais dire, venir influer Dieu et ainsi le faire changer. Et c'est pourquoi il me semble que ce caractère est essentiel pour qu'on puisse placer une confiance absolue en Dieu. Un Dieu personnel vivant. Parler d'un Dieu personnel, c'est dire qu'il s'agit d'un être caractérisé par la possession de la pensée, du sentiment, de la volonté, un être qui a la conscience de soi, un être qui est capable de relation. Alors, cela est affirmé tout au long de la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu peut dire, Vos pensées ne sont pas mes pensées, et les pensées de Dieu sont bien plus élevées que les nôtres. Ou encore, cette fois, c'est dans la lettre aux Romains, où nous sommes encouragés à ne pas nous laisser modeler par le monde actuel, mais à nous laisser transformer par le renouvellement de notre pensée. Dans quel but? Eh bien, dans le but de pouvoir discerner la volonté de Dieu. Dieu fait des choix. Le psalmiste dit, Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Dieu a aussi des sentiments. Il a tant aimé le monde qu'il est venu vers nous en la personne de Jésus-Christ. Dieu aussi manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respecte pas sa volonté. Il prend plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice. On pourrait relever aussi beaucoup d'autres textes. Et puis Dieu, comme je l'ai dit, est un être capable de communication. Dieu, trouve-t-on au début de la lettre aux Hébreux, a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Alors, nos ancêtres, il est question là des ancêtres d'Israël. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Et puis, cette existence, enfin affirmer plutôt la personnalité de Dieu, a comme implication qu'il s'agit d'un Dieu qui est vivant. Et cela est aussi clairement affirmé à différents endroits dans la parole de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, peut s'écrier l'apôtre Pierre, ou Jésus-Christ, on l'a déjà vu, souligne que le Père a la vie en lui-même. Cet enseignement me paraît important car il permet de s'opposer à différentes philosophies qui présentent, par exemple, Dieu comme étant tout simplement une force impersonnelle. Et aussi, le fait que Dieu soit un Dieu personnel est fondamental car cela implique qu'il va y avoir possibilité d'établir une relation. En même temps, cela est, j'allais dire, si on peut dire ainsi, à double tranchant. Se dire qu'on peut entrer en relation avec un tel Dieu, ça veut peut-être dire aussi qu'on va avoir des comptes à lui rendre. Si c'était une force impersonnelle, on n'aurait rien à craindre. Mais tel n'est pas le cas s'il s'agit d'une personne avec qui on peut entrer en relation. Et d'un autre côté, cela peut nous donner l'espoir que les choses puissent s'arranger. Et bien sûr, pour nous, en tant que chrétiens, on sait que cela a trouvé sa solution en la personne de Jésus-Christ. Dieu est esprit. Cela implique, entre autres, qu'il est indépendant de l'espace parce que il n'est pas, comme nous, hein, lié, j'allais dire, à un corps physique qui fait que on se trouve à un endroit de l'espace et pas à un autre. Hein, donc un Dieu qui est incorporel. Et en même temps, on trouve dans la Bible plusieurs textes qui nous parlent des mains de Dieu, de ses oreilles, de ses yeux, de son bras, de ses pieds. Comment comprendre cela? Comme Dieu ne peut se révéler à l'être humain qu'à partir de concepts que nous sommes à même de comprendre ou expérimenter, eh bien, il n'est pas surprenant que finalement il se révèle à nous dans l'Écriture par le biais de ce qu'on appelle des anthropomorphismes, c'est-à-dire par l'attribution à Dieu de traits humains, ou bien aussi d'images tirées de la création. Hein, Dieu est présenté, par exemple, des fois comme étant un rocher, comme étant un feu dévorant, etc. Alors, c'est donc à la lumière de l'ensemble de la révélation qu'il nous faut comprendre ces textes que vous voyez affichés à l'écran, et cela nous amène à comprendre qu'il s'agit justement de figures de style, d'anthropomorphisme, et qui signifie tout simplement que Dieu peut agir, que Dieu entend tout ce que nous pouvons dire, que Dieu voit tout ce que nous faisons, etc., etc. La spiritualité de Dieu implique aussi qu'il est invisible. Il est l'image du Dieu, enfin Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, nous dit le premier chapitre de la lettre aux Colossiens, ou dans la première lettre à Timothée, au roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu soit honneur et gloire pour l'éternité. Cette affirmation, elle aussi, pose question. Plusieurs textes nous disent que des hommes ont vu Dieu. J'en ai relevé juste deux ici, mais on pourrait en trouver d'autres. Ils virent le Dieu d'Israël. Ça, c'est lorsque des anciens sont montés avec Moïse sur le mont Sinaï, dans Exode 24, où Jacob peut s'écrier, hein, j'ai vu Dieu face à face. Comment comprendre cela? Eh bien, il me semble que la Bible nous montre que Dieu peut revêtir différentes formes visibles pour se révéler à l'être humain. Il s'agit de ce qu'on appelle des théophanies. Là encore, cela n'est pas surprenant, car pour se révéler à nous, il faut bien que Dieu le fasse par des moyens qui soient accessibles à notre humanité. Et il l'a fait bien sûr de façon, j'allais dire, la plus merveilleuse possible, ensuite en venant vers nous, en la personne de Jésus-Christ. Un Dieu éternel, immuable. Parler de l'immuabilité divine signifie que Dieu ne change pas dans son être, hein, dans ce qu'il est. Toi, tu es toujours le même, peut dire le psalmiste au psaume 102, ou Dans la lettre de Jacques, tout don parfait nous vient d'en haut du Père, qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Dieu est immuable aussi dans ses desseins, c'est-à-dire dans ses plans. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours. Ses projets subsistent d'âge en âge, nous dit le psalmiste. Ou encore au chapitre 3 de la lettre aux Éphésiens, il nous est dit que cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité. Alors, là aussi, cette immuabilité divine me paraît importante sur le plan pratique, parce qu'elle signifie que Dieu ne peut pas changer. S'il pouvait changer, il pourrait changer soit en bien, soit en mal. Changer en bien signifierait finalement qu'il n'est pas aujourd'hui le meilleur Dieu qu'il puisse être. Et si au contraire, il pouvait changer en mal, alors on pourrait se demander si vraiment on peut avoir confiance dans ce qu'il nous dit, dans les promesses qu'il nous fait et qui ne sont pas encore accomplies. Donc c'est pour cela que cette immuabilité divine me semble aussi indispensable pour qu'on puisse placer une confiance absolue dans notre Dieu. Il s'agit aussi d'un Dieu qui est éternel, c'est dire qu'il n'a ni commencement ni fin, ce qui implique entre autres qu'il n'est pas limité dans le temps. Alors, cette doctrine, elle est liée à l'immuabilité divine. Si Dieu ne change pas dans son être, alors effectivement, il doit être éternel. Et la Bible l'affirme en différents endroits. L'éternité passée, par exemple, dès l'origine, ton trône est ferme. Oui, tu existes depuis toujours. Au psaume 93, dans la première lettre à Timothée, au chapitre 6, Dieu seul est immortel. Donc ça renvoie à son éternité future. Et puis, ce texte du psaume 90 renvoie à la fois à l'éternité passée et l'éternité future. De toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Un Dieu omniprésent, transcendant, immanent. Parler d'omniprésence divine, c'est affirmer que Dieu est présent en tout lieu. Alors, on le trouve très bien exprimé dans ce psaume 139. Où pourrais-je fuir hors de ta présence? S'exclame le psalmiste. Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins de les mers, là aussi ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. Voilà, par ces images, le psalmiste montre bien qu'il n'y a pas d'endroit où on puisse échapper à Dieu. Et Dieu lui-même l'affirme dans le livre de Jérémie. Quelqu'un, dit l'Éternel, pourrait-il se cacher sans que moi je le voie? Alors, cette omniprésence, eh bien, elle est aussi source de réconfort pour nous croyants. Si Dieu est présent en tout lieu, cela signifie que où que nous soyons, nous pouvons compter sur lui. Nous allons pouvoir faire appel à lui. Nous ne sommes pas seuls. Il est aussi présent à nos côtés. Et puis, il me semble aussi que cette omniprésence, elle devrait être pour nous croyants un puissant stimulant à la sanctification. Puisque où que nous soyons, Dieu est aussi présent, eh bien alors cela devrait nous pousser à avoir toujours plus des attitudes, des comportements qui correspondent à ce qu'il attend de notre part. La transcendance. Affirmer qu'il est transcendant, c'est dire qu'il est distinct de toutes ses créatures et de toute sa création. C'est dire qu'il n'est pas limité au cadre du créé, mais c'est dire qu'il dépasse ce cadre. Voilà ce qu'on peut trouver au premier livre des Rois. Est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir? Il me semble que c'est le roi Salomon qui dit ça alors qu'il va construire le temple pour Dieu. Il réalise bien que Dieu dépasse de loin cette toute petite construction. Voici ce que dit l'Éternel. Mon trône, c'est le ciel, la terre, l'escabeau où je pose le pied. On se rend compte là que Dieu dépasse l'univers, hein, et aussi tout simplement, il le dépasse parce que c'est lui qui l'a créé. Alors, cette transcendance, eh bien, elle a aussi des implications très pratiques, car elle montre finalement que la pensée panthéiste, selon laquelle l'univers serait Dieu, ou bien est une conception qui est erronée. Et puis, il me semble aussi qu'elle devrait nous pousser à prendre conscience que Dieu n'est pas cantonné dans des lieux particuliers. Hein, et on pourrait des fois croire qu'il est plus spécialement cantonné dans des églises, mais non, Dieu dépasse de très loin la création. Un Dieu immanent. Alors, affirmer son immanence, c'est dire qu'il est présent et surtout agit en tout lieu au sein de sa création. Cette immanence, hein, par exemple, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. On voit bien que si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est aussi parce que Dieu continue d'intervenir. S'il portait sur lui toute son attention, s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, toutes les créatures expireraient et nous aussi, nous retournerions à la poussière. Donc Dieu continue d'agir pour maintenir tout en vie. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui, trouvons-nous dans le premier chapitre de la lettre aux Colossiens. Alors cette immanence, là aussi, hein, elle est importante parce qu'elle montre que la pensée déiste est erronée. Hein, le déisme affirme que Dieu aurait créé l'univers, posé des lois et qu'ensuite il laisserait l'univers fonctionner juste selon ces lois-là. Non, Dieu continue à intervenir au sein de son univers créé. Et cela est aussi important parce que cela signifie qu'il va pouvoir répondre aux prières que nous lui adressons. Et cela signifie aussi que les miracles sont possibles, hein, contrairement au déisme qui va tout figer aux lois physiques qui existent. Eh bien là, nous savons que les lois physiques peuvent être parfois dépassé si Dieu le juge bon. Un Dieu sage, omniscient, omnipotent. La sagesse de Dieu, elle concerne à la fois son savoir, mais aussi son savoir-faire. Dieu est sage en ce que ses décisions, ses actions vont produire les meilleurs résultats par les meilleurs moyens possibles. Dieu seul est sage, nous enseigne l'Écriture, hein, par exemple dans Romains 16, dans Daniel 2, hein, c'est à lui qu'appartient la sagesse et la force. Et cette sagesse de Dieu, voilà, hein, là c'est plus son savoir-faire, il a tout fait avec sagesse. Et c'est aussi quelque chose qui nous dépasse, profondeur de la sagesse de Dieu. Que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. Alors sur le plan pratique, eh bien, cela nous poussera à continuer à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas. Voilà. Dieu n'est pas insensé, tout ce qu'il fait, et il le fait avec sagesse. Et cette sagesse nous dépasse, hein, on l'a vu. Donc il peut nous arriver de ne pas comprendre. Mais puisqu'il agit vraiment avec sagesse, nous pouvons continuer à lui faire confiance. Affirmer que Dieu est omniscient, c'est dire qu'il connaît toutes choses. Il sait à l'avance ce qui va se passer dès le commencement. J'annonce l'avenir, Ésaïe 46. Il connaît nos besoins avant même que nous les lui demandions, hein, nous dit le Seigneur Jésus dans Matthieu 6. Il connaît aussi nos pensées. Dieu discerne le fond des cœurs et toutes les intentions. 1 Chronique 28. Et puis, voilà, on l'a vu tout à l'heure dans ce psaume 139. Il connaît de loin notre pensée, c'est-à-dire finalement, même avant que presque notre pensée soit née en nous, Dieu la connaît déjà. Pour Certains auteurs, la connaissance de l'avenir de Dieu, par Dieu, pardon, pose la question de la liberté humaine. Personnellement, je ne vois pas en quoi la préconnaissance divine serait un obstacle à la notion de liberté humaine. Et sur ce point-là, je rejoins le théologien Thyssen, qui affirme que la connaissance de l'avenir n'est pas en elle-même causale, mais que les actes libres n'ont pas lieu parce qu'ils ont été prévus d'avance, mais ils ont été prévus d'avance parce qu'ils auront lieu. Alors cette omniscience divine, eh bien, elle devrait aussi nous conduire à pouvoir placer notre confiance en Dieu, parce que nous savons que s'il nous le demande d'aller dans un chemin, eh bien, il ne sera pas pris au dépourvu parce que il aurait ignoré qu'il allait se passer telle ou telle chose, ou il aurait oublié tel et tel événement du passé. Non, Dieu connaît toutes choses à l'avance, et s'il nous demande d'aller dans un certain sens, nous pouvons avoir la certitude qu'il ne sera pas pris au dépourvu. Cette omniscience aussi est un encouragement pour nous de nous savoir pleinement acceptés par Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, lorsque il m'arrive de pécher, de faire des choses contraires à la volonté de Dieu, je me sens mal. Et ça, c'est, j'allais dire, c'est normal, mais j'ai honte. Et puis, voilà, j'ai tendance à me dire, ah, je déçois encore Dieu. Mais Dieu, quand il m'a adopté, quand il nous a adoptés, il connaissait déjà tout de notre vie future. Il savait qu'à tel ou tel moment, nous allions peut-être le renier, nous allions faire quelque chose de mal par rapport à ce qu'il attendait de nous. Alors voilà, bien sûr, cela ne doit pas nous encourager à commettre des choses mauvaises, mais plutôt nous dire que Dieu nous a adoptés en pleine connaissance de cause. Nous sommes pleinement acceptés par lui. Et cela aussi devrait nous conduire à bannir l'hypocrisie de nos vies. Nous pouvons peut-être cacher des choses à nos semblables qui ne voient pas dans nos pensées, mais nous l'avons vu, Dieu connaît nos pensées même avant qu'elles arrivent dans notre esprit. Alors, nous soyons conscients que nous ne pouvons rien lui cacher, hein, et avançons donc en toute franchise devant lui. Et là encore, cela devrait nous pousser à la sanctification, sachant que nous ne pouvons rien lui cacher. Contrairement, comme je l'ai dit, on peut cacher des choses à nos semblables, mais pas à Dieu. Alors que cela nous encourage aussi à avoir, eh bien, une discipline de nos pensées. Nos pensées, ne sont pas visibles par les autres, mais Dieu les voit. Un Dieu omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant. La Bible parle de lui comme du tout-puissant. Job peut dire, je sais que tu peux tout. Jésus relève qu'il y a des choses impossibles aux hommes, mais que à Dieu tout est possible. Alors, il faut être clair sur ce qu'on veut dire lorsqu'on affirme que tout est possible à Dieu. Cela ne signifie pas qu'il peut faire n'importe quoi, mais plutôt qu'il peut faire tout ce qu'il veut, comme cela est dit au psaume 115. Qu'il peut faire tout ce qui n'est pas contraire à son essence. Par exemple, il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas non plus être tenté par le mal. Alors cela est aussi source de paix pour nous, parce que nous savons que nous sommes du côté de celui qui est le plus fort, et que même s'il est esprits du mal peuvent encore agir aujourd'hui, Dieu est au-dessus d'eux. C'est lui le Tout-Puissant. Dieu, il est saint, il est bon, amour, juste, vrai, fidèle, il est aussi jaloux. Le champ lexical du mot saint, cite un auteur ici, correspond fondamentalement à la nature essentielle de ce qui appartient à la sphère de l'être et de l'action de Dieu, et qui se distingue de ce qui est ordinaire ou profane. En fait, en disant que Dieu est saint, nous déclarons qu'il est parfait dans tout son être, qu'il est distinct de tout ce qu'il a créé. Bref, j'ai envie de dire que nous disons tout simplement que Dieu est Dieu. C'est pour cela que la sainteté est finalement un attribut qui va caractériser tous les autres attributs de Dieu. Sa justice est sainte, sa colère est sainte, son amour est saint, etc., etc. Dieu, en fait, est saint dans tout ce qui le révèle. Alors, cette notion de sainteté, on l'a compris, elle renvoie à l'être de Dieu, mais elle a aussi une portée éthique, ne serait-ce que parce que Dieu est parfait dans toute sa personne et que le mal est totalement étranger à son être. Alors, on a de très nombreux textes bibliques, hein, qui nous enseignent la sainteté de Dieu. Vous en avez quelques-uns à l'écran. En lien avec la sainteté divine, j'aimerais dire un mot sur la colère de Dieu. Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. Il ne peut regarder l'oppression. Sa colère se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes. En fait, la colère est la réaction de Dieu face à ce qu'il ne devrait pas être, et notamment le mal. Si la sainteté, elle est intrinsèque à l'être de Dieu, tel n'est pas le cas de sa colère. Dieu a toujours été saint, mais il n'a pas toujours été en colère avant que le péché soit là. Ce que je voudrais relever, c'est que cette colère de Dieu, elle est juste et bonne, parce qu'il ne s'agit pas de la manifestation d'une perte de maîtrise de soi ou d'un orgueil qui serait blessé, mais, comme je l'ai dit, c'est sa juste réaction face au mal. Ce texte de Romains 2 nous parle du jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Affirmer que Dieu est bon suppose l'existence d'un référentiel qui permet de définir ce qui est bien. Or, celui qui définit le bien, c'est Dieu lui-même. Ainsi, on peut dire que Dieu est bon en ce que tout son être et toutes ses actions sont dignes de sa propre approbation. Alors, de nombreux textes bibliques parlent de la bonté de Dieu, hein, il est bon dans son être. L'Éternel est bon, célébrez l'Éternel car il est bon. Jésus qui peut souligner, personne n'est bon sinon Dieu seul. Il est bon dans ses paroles. Hein. Le commandement hein, est saint, juste et bon. Il est bon dans ses actions. À la fin de la création, Dieu considère tout ce qu'il a créé et il trouve cela très bon. Dans sa relation envers les siens. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur, mais il est bon envers tous, nous dit le psaume 145. Il est bon pour les ingrats, pour les méchants, trouve-t-on dans Luc 6. Dans les siècles passés, il a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin, hein, loin de lui. Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté. Comment? En leur envoyant du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison. Cette certitude de la bonté de Dieu, elle me paraît capitale, car sans ce caractère-là, un Dieu qui posséderait l'omniscience et la toute-puissance pourrait être un véritable tyran. Donc il est vraiment essentiel que notre Dieu soit bon, et cela nous conduit là encore à pouvoir placer une totale confiance en lui. Dieu est amour, hein, dans son être. Celui qui n'aime n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il est aussi la source de l'amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Hein. L'amour que nous pouvons avoir nous vient aussi de Dieu. L'amour de Dieu envers ceux qui ne le méritent pas, on peut parler de sa grâce. Le Dieu de toute grâce qui en Jésus-Christ nous a appelés à sa gloire éternelle. Il a voulu montrer la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Son amour envers ceux qui sont dans la misère, eh bien, c'est sa miséricorde. Il est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Et son amour envers ceux qui n'ont pas répondu, eh bien, il se manifeste par sa patience. Il use de patience envers les hommes car il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrive à la repentance. Alors, cet amour de Dieu, hein, il a une dimension inconditionnel puisqu'il a sa source en Dieu. C'est-à-dire si Dieu nous aime, c'est pas parce que nous aurions fait telle ou telle chose de bien, hein, mais c'est parce que lui-même est amour. Donc cela est vraiment libérateur pour nous parce que ça nous parle d'un amour inconditionnel de Dieu. Même s'il est vrai qu'il y a des gradations dans l'amour de Dieu, hein, par rapport par exemple à ses enfants ou par rapport au fait qu'on lui obéisse, qu'on le suive, mais bon, je n'aborde pas cet aspect-là ce soir et je voulais surtout souligner cette dimension inconditionnelle. La confiance en sa bonté, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, n'est pas une simple autosuggestion. Pourquoi? Eh bien, parce que il nous l'a démontré par son amour. Lorsque la bonté de Dieu, notre Dieu Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Hein? Il est bien sûr fait ici allusion à la venue de Jésus-Christ et puis à son œuvre expiatoire. Dieu est juste. C'est Dieu qui, dans sa nature, définit ce qui est juste. Il est le seul législateur et juge. Celui qui peut sauver et faire périr. Il est juste dans son être. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu. Dans ses paroles, moi, l'Éternel, je dis ce qui est juste. Je proclame ce qui est juste. Ses exigences sont justes. Les ordres de l'Éternel sont droits. Le commandement de l'Éternel est limpide. Les actions sont justes, hein, on l'a vu tout à l'heure, le jour de la colère, eh bien, ce jour-là révèle le juste jugement de Dieu. Dans Deutéronome 32, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont équitables. Alors, il est vrai que la justice de Dieu peut sembler remise en question lorsqu'on regarde le monde qui nous entoure. Et ce que je voudrais relever, c'est que la Bible n'occulte pas ce problème, comme cela ressort par exemple. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Voilà. Comme cela ressort par exemple du psaume 73, où Asaph exprime son désarroi face au constat de la prospérité des méchants, alors que lui, qui cherche à suivre Dieu, eh ben, il est frappé, il est châtié. Et ce n'est que lorsqu'il va envisager le sort final des méchants que la paix va revenir dans son cœur. La parole de Dieu n'envisage pas la justice de Dieu, je dirais, dans l'immédiateté présente. Alors c'est vrai que nous aussi, on aimerait des fois que Dieu rende tout de suite justice, mais si on réfléchit bien, si Dieu rendait justice dans l'immédiateté présente, sa parfaite justice, aucun d'entre nous qui sommes ici ce soir ne serions encore en vie, parce que tous nous serions sous le coup de la justice inflexible de Dieu. C'est donc dans la perspective de l'éternité que la justice de Dieu doit être envisagée, et cela ressort, hein, par exemple du livre de l'Apocalypse, qui souligne que chacun sera jugé selon ses œuvres, hein, dans Apocalypse 20 ici. Ce que je voudrais encore relever, c'est qu'en accordant son pardon aux hommes, eh bien Dieu ne fait pas entorse à sa justice. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus-Christ a pris sur lui nos fautes, notre péché, et il a subi la sanction de Dieu, la sanction que nous méritions. Donc le péché a bien reçu sa sanction et en pardonnant, Dieu n'est pas en train de faire entorse à sa justice. C'est un Dieu qui est vrai, qui est fidèle. Alors, il est vrai dans son être, la première lettre de Jean au chapitre 5, nous savons que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, ou Jésus-Christ, hein, nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Il est vrai, fidèle dans ses paroles, hein, il ne ment pas, sa parole est la vérité. Affirmer que Dieu est vérité, cela renvoie à plusieurs domaines, hein. Cette affirmation recouvre une dimension métaphysique, il est le seul vrai Dieu, on l'a vu, une dimension éthique, il est le Dieu qui ne ment pas, et puis aussi une dimension que je dirais logique, hein, il y a cohérence avec la réalité. Lorsqu'il dit quelque chose, cela correspond à la réalité qui existe. Alors, sur le plan pratique, eh bien, là encore, cela nous permet de placer notre confiance en Dieu et nous pouvons avoir la certitude, hein, puisqu'il est vrai, fidèle, qu'il va tenir toutes ses promesses. Il y a des promesses qui sont déjà réalisées, certaines ne sont pas encore réalisées, eh bien, nous pouvons avoir la certitude qu'il va les tenir. Et puis, je termine sur le Dieu jaloux. Alors, peut-être que cette expression peut nous paraître un peu choquante, car en général, la jalousie nous apparaît comme un vice. Mais lorsque la Bible associe ce caractère à Dieu, cela ne signifie pas qu'il est envieux de quelque chose qu'il n'aurait pas, hein, mais bien plutôt Dieu est jaloux en ce qu'il veut être aimé et servi sans partage. Hein, on le voit dans ce texte. On ne doit pas se prosterner devant des idoles. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu jaloux. Le Seigneur Jésus relève aussi que c'est à Dieu seul qu'on doit rendre un culte. Excusez-moi, je m'arrête là, puisque le temps est passé, mais nous sommes arrivés à la fin de ce qui était prévu.
Un grand merci, Philippe, pour cette première partie de ta présentation. On vous propose toujours à la fin du premier exposé, mais aussi à la fin du deuxième, de profiter d'un temps de questions-réponses. Et puis, on va prendre là quelques minutes pour prendre quelques-unes des questions qui ont été posées et puis te donner la parole, Philippe, à ce sujet. Donc, une des questions, c'est la grâce de Dieu, est-elle un attribut de Dieu ou bien une conséquence de ce qu'il est?
La grâce de Dieu est-elle un de ses attributs ou une conséquence? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il s'agit plutôt d'une conséquence de son amour, de sa bonté à notre égard. C'est un peu plutôt comme ça que je le perçois personnellement.
Merci pour cette première réponse. Et puis, bon, bah, tu as parlé aussi d'un Dieu omniscient qui sait tout. Et puis, évidemment, l'une de nos auditeurs se pose la question, finalement, où il affirme que Dieu savait que Adam et Ève allaient obéir dans le jardin. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Oui, pour moi, j'allais dire la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin n'est pas quelque chose qui a surpris Dieu dans le sens où il ne le où il se serait pas comment dire où ça aurait été un événement non connu de lui par avance. Alors après, on a aucun texte biblique qui permet d'étayer ce que je suis en train d'affirmer, mais si ce n'est le fait que la Bible affirme en de nombreux endroits que Dieu connaît toutes choses, le futur, hein, on l'a vu, et donc ben, cela concernait aussi, me semble-t-il, le futur avant même que la création soit là. On voit que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, avait été préconnu dès avant la fondation du monde. Et j'ai pas pensé tout de suite, mais en fait, si dès avant la fondation du monde, Dieu avait déjà en vue l'agneau de Dieu, c'est qu'il savait que l'être humain allait pécher et qu'il allait falloir une solution à cela.
Merci pour cette réponse. Et puis, une question intéressante, tu as montré que Dieu était un Dieu moral. Et puis, un de nos auditeurs se pose une question très intéressante. Quelle est la place finalement que doit avoir la loi de Dieu que Dieu a donnée à Israël? Je pense qu'il fait référence au Décalogue dans la vie de l'Église aujourd'hui.
Alors en effet, nous avons un Dieu qui ne change pas, même si tout au cours de l'histoire biblique, il y a une révélation progressive de Dieu et des choses qui peuvent se mettre au moins à notre niveau en place progressivement. Mais il me semble que Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 5, dit que pas un seul iota de la loi ne doit passer. Alors, comment comprendre cela? Parce qu'on voit bien qu'on n'est pas encore en train de continuer à accomplir des sacrifices, par exemple, hein, si je prends un exemple. Il me semble que cela, la loi ne passe pas dans le sens profond qu'elle avait, c'est-à-dire que dans sa forme, elle peut passer. Mais dans ce qu'il y avait derrière les commandements, cela reste. Donc, bien sûr, là, j'ai pris l'exemple des sacrifices, hein, donc parce que c'est un exemple assez facile, assez clair. Les sacrifices, finalement, étaient là pour enseigner que le péché demandait réparation, demandait sanction. Ces sacrifices, hein, nous le savons par le Nouveau Testament, pointés en direction de Jésus-Christ, mais par eux-mêmes, ils ne permettaient pas d'effacer les péchés. Hein. On trouve ça, par exemple, dans Hébreux 10, où c'est clairement affirmé. Mais si Dieu pouvait, par les sacrifices, pardonner les personnes, c'était par anticipation sur ce à quoi il renvoyait, c'est-à-dire à l'œuvre de Jésus-Christ. Donc maintenant que Jésus-Christ est venu, il n'y a plus nécessité d'offrir ces sacrifices qui étaient là juste pour pointer en direction de Jésus-Christ, pour nous inculquer que le péché demandait sanction, que pour la sanction puisse être valable, il fallait que la victime soit sans défaut, hein, par exemple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la loi, dans ce cas-là, ne persiste pas dans sa forme, mais dans son fond, elle est bien toujours là. Alors là, j'ai dépassé hein, pardon, le décalogue. Si on prend la question du sabbat, alors tous les chrétiens n'ont pas la même approche par rapport au sabbat. Mais si on comprend avec Hébreux 4, qui est renvoyé là aussi à l'œuvre de Jésus-Christ et finalement ce repos d'une certaine façon dans lequel Jésus-Christ nous faisait entrer, eh bien cela, quelque part, nous conduit à se dire, ben, ce n'est pas nécessairement le samedi qui doit être un jour de repos, même si je pense que c'est bien d'avoir un jour de repos, mais c'est le sens, j'allais dire, est toujours là, et même, j'allais dire, il est dépassé dans le sens que c'est plus un jour sur sept. Notre sabbat, c'est-à-dire ce moment où on est en relation avec Dieu, ce moment où on est dans l'adoration, le service pour Dieu, mais ça devrait être 7 jours sur 7, je dirais presque 24 heures sur 24, mais il faut bien qu'on dorme. Mais voilà, c'est en fait notre vie entière maintenant qui est consacrée à Dieu et c'est plus simplement un jour de la semaine. Donc dans sa forme, on est plus dans l'application, j'allais dire littérale, mais dans le fond, on est bien toujours dans son application. Et là, je dirais même qu'en Jésus-Christ, ça a été dépassé. Voilà, je ne sais pas si
Merci, oui,
je...
tout à fait. Merci, Philippe. Notre ami Gilles a posté aussi un petit commentaire intéressant en disant que les principes moraux de la loi mosaïque sont toujours valides aujourd'hui, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, etc. Mais que la loi mosaïque, bien que terminée en tant qu'alliance avec Israël, continue d'enseigner les croyants de l'Église. Et puis, on va te poser une dernière question. Après, on vous laissera tous, et puis Philippe en particulier aussi, partir en pause. Une question très intéressante concernant le fait que Dieu ne change pas, que Dieu est immuable. Et puis, le fait aussi, selon ceux qui écrivent la question, qu'il semble changer d'avis dans plusieurs circonstances, notamment concernant Ninive, concernant le regret d'avoir créé l'homme. Le regret d'avoir nommé Saül. Enfin, il y a plusieurs exemples où on voit Dieu pas forcément faire ce qu'il avait d'abord annoncé. Comment est-ce que tu concilies ça avec son immuabilité?
Alors, ce que je dirais, c'est que Dieu ne change pas dans son être, mais pour ne pas changer dans son être, il peut changer dans ses relations avec les hommes. Lorsque, effectivement, Dieu annonce par exemple le jugement sur les Ninivites, et puis que les Ninivites viennent à se repentir, eh bien, Dieu va renoncer à son jugement, mais c'est pas. Donc, on voit un changement dans la relation avec les êtres humains, mais du coup, cela permet à Dieu d'être immuable dans son être, c'est-à-dire ce Dieu d'amour, par exemple, dans le cas présent, qui est prêt à apporter son pardon lorsque le repentir est là. Donc, il me semble qu'il faut distinguer cette immuabilité dans l'être de Dieu, mais pour qu'elle puisse, j'allais dire, vraiment être là, eh bien, il est nécessaire qu'il change au niveau des relations avec les humains lorsque les humains peuvent changer et notamment se repentir.
Merci Philippe pour cette première partie, pour ces réponses à ces quelques questions. Il est 21h08 et puis je vous propose qu'on se retrouve à 21h15 pour reprendre la suite. À bientôt.